21h passées de quelques secondes sur Radion. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Wagon Livre, votre émission littéraire. Une émission que nous allons passer en compagnie de Nicolas Destiendorf. Nicolas Destiendorf est écrivain et journaliste. Il a 43 ans, il a deux enfants et vit à Paris. À ce jour, il a publié 24 livres, dont pour moitié des romans dans tous les genres, historiques et policiers. C'est un passionné d'opéra, il est aussi critique d'opéra au Figaro et à Classica. Et il a écrit d'ailleurs un livre sur l'opéra et également une biographie d'Offenbach. Son autre passion, c'est la ville de Paris. Il est l'auteur d'un dictionnaire amoureux de Paris, disponible aux éditions Plon, et depuis octobre 17, apparu chez J'ai lu, les petits plaisirs que seul Paris procure. Ce soir, nous allons rencontrer Nicolas Destiendorf pour lui demander d'évoquer son roman sorti en août de l'an dernier et qui a pour titre La gloire des maudits, un roman toujours disponible en librairie aux édition Albin Michel. Nicolas Destiendorf a obtenu le prix Case Lip pour un autre roman, paru il y a quelques années et qui a pour titre « Les fidélités successives », un roman dans lequel il explorait les ambiguïtés de l'occupation. Avec ce nouveau roman, « La gloire des maudits », Nicolas Destiendorf s'attaque aux mensonges de l'après-guerre. C'est un tableau romanesque d'une France au lendemain du chaos où l'on croise les grandes figures du Paris intellectuel et artistique des années 50. Et ce tableau montre que le passé nous rattrape toujours et que les guerres ne se terminent jamais. Très bonne soirée à toutes et à tous. Un premier intermède musical dans votre émission littéraire et on se retrouve juste après avec notre invité Nicolas Destiendorf.
Je te mens, je ne fais que ça, et dans mes yeux tu le lis. Je te mens, mais je sais déjà que je suis bientôt pris. Je ne trouve jamais rien de mieux à croire que j'aime ta jalousie. Je sais qu'on perd toujours à ce jeu, qu'un jour tu seras parti. J'ai ça dans la peau jusqu'à la fois de trop. I should have gone home. How hard can it be to say no? Je détruis ce que j'ai de plus beau. Car du mal je m'en fais aussi. J'ai ma vie qui prend l'eau. I'm addicted to this game. Wish I could just let it be. Should've left but I did it again. And now it all fires back in me. Je fuis ton regard de peur qu'il soit trop tard. I should have gone home. How hard can it be to say no? Je ne suis qu'un homme qui n'a pas appris à dire non. Feels like I've been looking everywhere just to find out that it's you. Que ça, et dans mes yeux tu le lis. Je ne suis qu'un homme qui n'a pas appris à dire no, no. I should have gone home. Should've
it's you. Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Nicolas Destiendorf, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être devant le micro de l'émission littéraire de Radion Wagon Livre, La gloire des maudits, donc votre dernier roman paru chez Albin Michel. C'est un roman dont l'action se situe 1954-1955, hein, dans une France présidée par René Coty, une France qui connaît les guerres coloniales, enfin c'est la fin de l'Indochine, le début des événements d'Algérie, mais surtout tout l'univers littéraire français des années 50, c'est aussi le Paris des années 50, un Paris intellectuellement brillant, un Paris plus glauque, plus interlope, et aussi, au centre de votre roman, une femme écrivain, Sidonie Porel, une papesse un peu de l'écriture qui règne sur le monde des lettres françaises, puisqu'elle est quand même à la tête du jury du prix Goncourt, et une charmante jeune femme qui a un passé douloureux. Son père a été lynché, tué à la Libération pour des raisons de collaboration avec l'ennemi. Et une jeune fille qui devient biographe de cette Sidonie Porel. J'ai posé l'intrigue toute primaire de votre roman.
Alors, j'espère. Effectivement, c'est un roman qui est compliqué à résumer, qui est compliqué à pitcher, parce que c'est une constellation d'histoires successives qui s'entremêlent. J'avais envie d'écrire sur les années 50, parce que c'est une période qu'on connaît mal. J'avais fait il y a 5 ans un roman qui s'appelait Les Fidélités successives, qui est la première partie d'un triptyque, en fait, dont la deuxième partie est La gloire des maudits. Les Fidélités successives, c'était sur la guerre, l'occupation, la vie quotidienne à Paris sous l'occupation et cette zone grise dans laquelle ont évolué les gens pendant 4 ans. À la fin des Fidélités, 1947, les collabos sont incarcérés. La gloire des maudits commence en 1955, au tout début, c'est-à-dire 2 ans après la grande amnistie générale de 1953, où on a ouvert les prisons et on a libéré tout le monde. L'idée d'origine de mon livre, c'était quelle a été la trajectoire de ces gens qui se sont retrouvés réinsérés dans la vie civile, dans la vie professionnelle? Comment est-ce qu'ils ont retrouvé du boulot? Quels sont les gens qui les ont aidés? Quels sont les gens qui leur ont mis des bâtons dans les roues? Comment ils ont inventé leur vie? Et au centre de tout ça, cette fameuse Sidonie Porel qui, elle, est passée entre les gouttes pendant 60 ans et qui, en fait, a une statue extrêmement friable que ma jeune Gabrielle va tenter de d'ébranler. C'est-à-dire qu'en fait, cette Sidonie serait une manipulatrice, une plagiaire, une menteuse, sans doute une collaboratrice, voire une meurtrière, on ne sait pas. En tout cas, un personnage sulfureux, mais qui a construit qui s'est construit une identité absolument verrouillée jusqu'au dernier degré, tout comme elle verrouille ses romans avec une précision implacable. Et ma petite Gabrielle va tenter de la démasquer et de mettre à bas sa statue.
Alors, elle est membre de l'Académie Goncourt depuis 1934. Donc, au moment du roman, elle préside cette noble assemblée. Elle a écrit, alors, elle a fait un peu dans le fantomasme, elle a fait un Satanax. Et puis surtout, elle a la tête d'un cycle romanesque qui s'est interrompu au 18e volume.
Alors, en fait,
deux Frances.
Elle a commencé un peu comme Souvestre et Alain, c'est-à-dire comme les inventeurs, les créateurs de fantomas dans l'immédiate avant Première Guerre mondiale. Et ensuite, elle est rentrée, comme elle dit, dans la grande littérature, c'est-à-dire qu'elle a fait ses gammes dans le roman populaire qui lui a appris à tenir son lecteur, chose qui pour moi est très importante. Et ensuite, elle est devenue une espèce de Roger Martin Dugard avec les Thibault ou de Jules Romain avec les Hommes de bonne volonté ou même de Zola avec les Rougon-Macquart. Elle a mis en chantier une fresque romanesque de 18 volumes qui retrace la vie de deux familles au tournant du siècle.
Et qui est un immense succès.
Un immense succès qui lui a valu le prix Goncourt quand elle était jeune. Chaque volume, chaque livraison annuelle était attendue comme le Messie. C'était à chaque fois des centaines de milliers d'exemplaires. Et ça, on a fait la femme la plus importante du milieu des lettres, donc comme vous l'avez dit, présidente du prix Goncourt, nobelisable, elle a raté le Nobel 2 ans avant à cause d'un certain Hemingway qui lui a chipé sous le nez, alors elle en est très agacée, d'autant que Gide l'a eu, que d'autres Français l'ont eu, elle estime que c'est à elle maintenant, et Elle tient tout son petit monde. C'est une marionnettiste. Elle manie toute une série de pantins. Je me suis beaucoup amusé à faire une délibération du prix Goncourt. En fait, on se rend compte qu'elle tire les ficelles. Ça, n'allez voir aucun sous-entendu, bien entendu. Donc je voulais mettre en scène quelqu'un qui serait à la croisée de Colette, Simone de Beauvoir et Elsa Triolet et qui tiendrait entre ses 10 doigts tout ce qui est écrit, tout ce qui est publié, tout ce qui est dit en France.
Alors, il faut dire aussi qu'elle n'a ni mari ni enfant. Il n'existe quasiment aucune photographie d'elle parce qu'elle refuse d'être photographiée. Elle a fait partie du réseau Honneur et Patrie, nous dit-on. Et puis, elle a participé au combat pour la fermeture des maisons closes aux côtés de Marthe Richard. Donc, une femme un tout petit peu engagée.
Disons qu'elle a tous les sacrements. Hein. Disons qu'à chaque fois, elle prend les bons engagements. Et s'il y a de mauvais engagements, elle se débrouille pour qu'ils soient gommés. C'est-à-dire qu'elle est d'une grande prudence parce qu'en fait, elle a un secret à cacher. Mais quel est ce secret? Et c'est ça que la petite Gabrielle va tenter de démasquer, de dévoiler.
Alors, la petite Gabrielle, donc, c'est cette jeune femme qui va devenir la biographe autorisée tout de même.
Qui va devenir la biographe autorisée, qui va presque devenir la fille adoptive de Sidonie. C'est-à-dire que Gabrielle, elle a un passé beaucoup plus compliqué, c'est très lourd, elle a 26, 27 ans. Son père était un des grands dandys de l'occupation. Et son père n'était pas, à proprement parler, un collaborateur. Gabrielle a 25, 26 ans. Elle est née à la fin des années 20. Elle est la fille d'Enrique Valoria. Donc, un personnage qui est une espèce de grand dandy franco-cubain qui a gagné beaucoup d'argent et qui en fait vit une vie d'oisive dans les années 20, dans les années 30.
Au Palais Royal,
dans un appartement qu'il a acheté grâce à sa grande fortune. Et en fait, il va continuer à mener une grande vie pendant l'occupation. Et le problème, c'est que sa petite Gabrielle va être adolescente à ce moment-là. Et au lieu de rester tranquillement avec sa mère à la maison, elle va demander à son père de l'accompagner. Et son père va dire oui. Après tout, la vie est dure, il faut s'amuser. Et cette jeune fille de 14-15 ans, va suivre son père dans toutes les boîtes de nuit de l'occupation, va mener une vie de bamboche, totalement en parallèle avec la réalité de l'histoire. Et en fait, elle va découvrir le monde réel en 45, lorsque son père va être lynché sous ses yeux. Et là, c'est pour elle le moment où l'occupation commence vraiment. C'est-à-dire qu'elle rentre dans la nuit de l'après-guerre, c'est-à-dire qu'elle a un nom maudit, elle est proscrite, on saisit une partie des biens de la famille, sa mère meurt de chagrin quelques années plus tard, et puis elle a un jeune frère qu'elle a à sa charge et qu'elle va plus ou moins élever et dont elle est une sorte de grande sœur mère, ce qui est assez difficile. Et donc, elle vit d'expédients, elle est écrivain public, elle écrit des lettres pour les commerçants de son quartier. Et un matin, elle reçoit sur son paillasson une lettre anonyme d'un homme qui lui explique « Écoutez, vous ne me connaissez pas, mais moi je sais beaucoup de choses sur vous et surtout, je sais beaucoup de choses sur une romancière que vous connaissez peut-être, Sidonie Porel. Laissez-moi vous raconter la vraie vie de Sidonie Porel. » Et comme un roman feuilleton, elle va recevoir 5, 6, 7 fois d'affilée, à peu près tous les 3-4 jours, la vie de Sidonie Porel en roman feuilleton, en lettre anonyme. Et à la fin, l'auteur des lettres anonymes va se dévoiler et c'est un homme qui en fait entend se venger de Sidonie et qui donc va envoyer Gabrielle en porte-flingue, si je puis dire.
Et donc cette petite Gabrielle Valoria mène l'enquête dans les milieux littéraires. Elle a aussi la chance d'avoir des connaissances, parce qu'il s'agit d'abord d'aborder et d'approcher Sidonie Porel. Oui. C'est une femme qu'on n'approche pas comme ça, parce qu'elle a une stature dans les lettres françaises qui fait d'elle qu'elle est un personnage qu'on ne saurait déranger, même pour écrire sa biographie.
Et surtout,
il s'agit de trouver, pardonnez-moi Nicolas, je vous ai interrompu, mais il s'agit d'aller creuser dans l'existence que l'on pense trop lisse de Sidonie, mais elle cache peut-être quelque chose.
Il y a deux stades différents. D'abord, il faut aborder Sidonie, il faut arriver à l'approcher parce qu'elle est inaccessible. Tout est verrouillé autour d'elle. On sait vaguement où elle habite, mais on ne la voit jamais dans la rue. Elle passe d'un lieu clos à un autre lieu clos. Et donc d'abord, Gabrielle va se débrouiller pour la rencontrer. Elle va aborder différentes personnes et avoir du mal. C'est comme ça qu'elle va se retrouver dans un cénacle d'anciens collaborateurs dont certains pourraient la connaître. Et ça m'a permis de mettre en scène aussi toute une espèce de micro-société d'anciens proscrits qui vivent entre eux dans la nostalgie des années de guerre, dans la nostalgie du maréchal Pétain, dans la nostalgie voire de Vichy, voire de l'Allemagne à Paris. Ça, je me suis beaucoup amusé à mettre en scène des Paul Morand, des René de Chambrun, des Arletty, tout ça. Et elle finit grâce à l'action d'un écrivain, elle finit par la croiser à un cocktail de Gallimard. Et en fait, Sidonie est absolument adorable avec elle et décide de la prendre sous son aile. Et c'est même presque Sidonie qui lui propose d'écrire sa biographie. Donc, elle lui tend sa vie sur un plateau. Mais alors, Gabrielle pense que c'est formidable, mais en fait, elle va se rendre compte petit à petit que, au lieu de manipuler Sidonie, c'est elle qui s'est manipulée.
Nicolas Destiendorf, on va quitter le Paris des années 50, le temps d'offrir à celles et ceux qui nous écoutent une pause musicale. Je rappelle que vous êtes devant notre micro pour votre roman intitulé La gloire des maudits, un roman disponible en librairie aux éditions Albin Michel. Très bonne soirée à toutes et à tous, c'est Wagon Livre sur Radion et nous sommes ensemble jusqu'à 22h.
Bercée par la vague blonde, t'as des cheveux comme une onde, je crois. Volée au-dessus du monde, mon cœur bat sous tes secondes pour toi. Quand tu pars souvent, je tremble que ma vie se désassemble sans toi. Pour un peu, j'oserais même te dire que c'est toi que j'aime, tu vois. D'amour, ce n'est pas pour moi, c'est trop difficile, tu vois. Dire des mots d'amour comme les autres filles, ça je ne sais pas, tu vois, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Suffire de toi. Tes yeux bleus me font rougir, mieux qu'un mot pour me prédire ma joie. Si un jour tu dois partir, je garderai ton sourire en moi. Pour un peu, j'oserais même te dire que c'est toi que j'aime, tu vois. Te parler d'amour, ce n'est pas pour moi, c'est trop difficile, tu vois. Dire des mots d'amour comme les autres filles, ça je ne sais pas, tu vois, ce n'est pas moi. Tout ce qui s'y forme attache à toi. Pour un peu j'oserais même te dire que c'est toi que j'aime, tu vois. Ce n'est pas moi.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Si vous le voulez bien, retrouvons notre invité ce soir sur Radion. C'est Nicolas Destiendorf qui signe aux éditions Albin Michel un roman intitulé « La gloire des maudits ». Alors, Nicolas Destiendorf, dans votre livre, la romancière Sidonie Porel, qui est au cœur de l'intrigue, donne sa conception de l'écriture. C'est page 232 et voici ce qu'elle dit. « Le romancier est l'égal de Dieu. Il a droit de vie et de mort, il bénit et damne. » Il peut surtout changer d'avis, retourner une situation, sauver in extremis, tuer un héros et glorifier un traître. C'est prodigieux. Ce qui est merveilleux, voyez-vous, c'est de donner à voir. Là, je m'interromps déjà. Votre roman donne à voir différents milieux. Milieux littéraires, les milieux du Paris populaire misérable. Vous nous conduisez à un moment dans un Paris, vous parlez même de Cour des Miracles, qui serait resté en place depuis très longtemps. Là, on retrouve aussi le plaisir de l'auteur du Dictionnaire amoureux de Paris, que vous avez fait paraître il y a quelque temps.
Bah, en fait, Paris est le personnage principal d'à peu près tous mes romans. C'est-à-dire que c'est, moi, je fonctionne d'abord par décor avant de fonctionner par personnage. Pour moi, les gens sont des émanations des lieux, sont des émanations des sites, sont des émanations des maisons, des châteaux, des arbres.
Comme chez Balzac, finalement.
Peut-être. C'est-à-dire, Paris est devenu personnage de roman à partir du 19e siècle et l'est resté. Avant, c'était une entité un peu floue. Ensuite, c'était une entité organique avec Balzac, avec Eugène Sue, avec Dumas, avec évidemment Zola. Et donc, j'avais envie de mettre en scène ce Paris de 1950, des années 50, qui est en fait le dernier avatar du Paris du Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'ensuite, il y a eu les grandes démolitions des années 60-70, les grands bétonnages des années De Gaulle et Pompidou, où on a rasé tout ce qui pouvait rester d'un Paris d'avant. Par exemple, le Paris de la place Maubert que je mets en scène, qui était un Paris noir, un Paris âcre, où on ne vivait que des clochards. Il y a un très beau livre de Jacques Quionnet qui s'appelle Rue des Maléfices, dans lequel il décrit l'ambiance des pourtours de l'église Saint-Séverin et de la place Maubert. Et c'est inimaginable aujourd'hui. Donc j'avais envie de mettre en scène ça. Et quand Sidonie parle de son plaisir de me donner à voir, c'est moi qui parle, bien entendu. C'est pour ça que j'étais très heureux. Je me suis amusé à faire de mon héroïne une romancière. C'est que ça m'a permis de mettre dans sa bouche des mots qui sont les miens. C'est pas non plus un traité d'esthétique ou un traité de technique littéraire. Mais quand elle parle de son bonheur d'écrire à l'aube, quand elle parle de ce don de vie et de mort qu'ont les romanciers sont des démiurges, les romanciers sont des dieux. Quand je me lève à 5h du matin, que je me mets à la table de travail, je suis une espèce de divinité sur pattes, et en pyjama en l'occurrence, pendant 4 ou 5 heures. Et ça, c'est absolument merveilleux, parce que pendant 4 ou 5 heures, j'ai un pied dans l'Atlantide et un pied dans ce monde qu'on dit réel. Ensuite, au bout de 5 heures, je ferme mon ordinateur, je retrouve ce monde qu'on dit réel, et ça me paraît extrêmement fade à côté de ce que je viens de vivre pendant 5 heures.
Et d'ailleurs, Sidonie parle des réactions de son lecteur. Elle dit du lecteur, il oublie qu'il tient un livre. Ses sens deviennent le réceptacle d'un monde parallèle qui l'entoure comme une aura. Bientôt, il voit mes personnages, il entend leur voix, il sent leur haleine, la sueur de leur corps. Il entre dans cette hypnose qui existe depuis l'aube des temps. Aux premiers âges, à la veillée, les conteurs ravissaient leur auditoire assis en rond au coin du feu. Ils les ravissaient au sens premier du terme. Ils les volaient à eux-mêmes, ils les dérobaient, ils leur faisaient entrevoir une autre réalité.
Ben voilà, je ne peux pas mieux dire, c'est exactement ce que je pense. Et j'avais presque oublié d'ailleurs que j'avais dit ça aussi précisément. Pour moi, c'est ça l'essentiel quand on écrit un roman, quand on raconte une histoire, parce que je me considère comme un raconteur d'histoire, c'est de kidnapper le lecteur, de l'entraîner dans un monde et de l'hypnotiser et de l'empêcher de dormir. La plus belle des critiques, c'est quand un lecteur ou une lectrice me dit « Écoutez, votre livre m'a fait passer une nuit blanche, deux nuits blanches. » C'est-à-dire que quelqu'un que je ne connais pas, que je ne rencontrerai peut-être jamais ou que je croise une fois, a été happé, hypnotisé par mes mots, par mon histoire. Je l'ai empêché de dormir. Et l'idée d'avoir passé parfois deux nuits avec une dame inconnue dans son lit entre ses mains, et c'est une chose absolument divine pour un auteur. C'est-à-dire que, nonobstant tous les problèmes de style, de syntaxe, d'élégance d'écriture, mais arriver à créer un monde dans l'esprit de quelqu'un qu'on ne connaît pas, arriver à ce que ce monde s'incarne dans sa conscience et dans son inconscient, au point que parfois il en rêve, c'est merveilleux.
Alors justement, page 301, c'est un moment du roman où Gabriel, accompagné de Jean Limousin, alors c'est pareil, lui, il a fait 8 ans de cachot pour collaboration active, hein, il était journaliste, il écrivait, je crois, dans l'hebdomadaire La Gerbe, qui était l'hebdomadaire.
Il était un journaliste ultra collaborateur et qui a trouvé en fait qui a eu droit à une rédemption après guerre en devenant critique gastronomique. Je me suis inspiré d'un personnage réel qui a eu vraiment pignon sur rue pendant ensuite quasiment un demi siècle dans la gastronomie française.
Et alors donc là, vous créez vraiment un univers qui est exceptionnel. Jean Limousin va conduire la petite Gabrielle dans un, je ne sais pas moi, un bar, mais un bar bien glauque, c'est chez Polo, où là, ils sont à la recherche d'un personnage qui s'appelle l'amiral, qui doit aussi permettre à Gabriel de savoir un petit peu ce qu'a fait notre Sidonie pour elle pendant la guerre, pendant l'occupation. Et je vous lis là, donc, ils sont dans une rue totalement noire. Même Jean Limousin connaît les lieux, mais il y va à tâtons. Et on est dans un Paris quasiment médiéval. Et vous écrivez « La vision tourne alors au fantastique. Dans tout le square, des lucioles commencent d'apparaître. Une à une, elles naissent de la pénombre au son de grands bâillements. Ce sont bientôt 50 bougies qui luisent autour d'eux, comme si Jean et Gabriel avaient pénétré une forêt enchantée. Derrière chaque flamme, ils aperçoivent le rouge ovale d'un visage presque sans trait. Nul ne parle, mais tous les observent. 100 pupilles dilatées à l'extrême, comme ces loups qui surgissent à la tombée du jour, encerclant le promeneur égaré dans la lande. » C'est des images de dessins animés, on voit ses yeux, et ce sont des clochards, puisque finalement il y a des dizaines de milliers de clochards. Finalement, vous parlez aussi de l'abbé Pierre qui a lancé cette insurrection de...
Insurrection de la bonté.
Insurrection.
Le fameux hiver 54. Il y avait vraiment une population de misérables, au sens hugolien du terme, qui vivait dans Paris. Et particulièrement ce fameux quartier de la place Maubert était un quartier de clochards, un quartier de vagabonds. J'en ai rajouté. J'ai toujours aimé les films fantastiques. Ça a côté une espèce d'image en noir et blanc des films fantastiques anglais ou américains où on surjoue sur les contrastes. Mais de toute façon, je fonctionne par image. Moi, je suis aussi bien nourri de lectures romanesques que de références cinématographiques. Et je vois mes chapitres avant de les écrire, je les visualise, je les mets en scène, je les cadre. Au début d'un chapitre, je place ma caméra et ensuite je fais un travelling arrière. Ça peut commencer sur un gros plan sur une bouche, ensuite je pars en arrière, on voit le décor. Et inconsciemment, mais ma génération, on a été autant nourri de lecture que de films. Donc forcément, les deux s'entremêlent. Et comme j'écris du roman très romanesque, donc forcément très visuel, je donne à voir, comme disait Sidonie.
Et d'ailleurs, vous parlez, le narrateur dit « Au moins ce taudis offre-t-il une vue d'un Paris fantôme où nul ne serait surpris de croiser vampire ou loup-garou ».
Absolument.
Et c'est très très bien rendu. Alors évidemment, chez Polo, il y a un épisode terrible. Avant que de rentrer à l'arrière de cette salle où sont réunis des pochetrons, parce que finalement c'est vraiment glauque, hein, c'est des pochetrons, il y a deux femmes avec des tabliers ensanglantés qui font des choses terribles. Mais Nicolas Destiendorf, mais où allez-vous chercher ça?
Ça, je ne l'ai pas inventé. Ça, je l'ai lu dans deux livres. Dans le livre de Jacques Yonner, Rue des Maléfices, et dans le passionnant livre du regretté Christian Millau, Paris m'a dit, qui est un livre sur le Paris des années 50, qui a été, je pense, ma plus grosse source de documentation pour ce roman. Il y avait, rue Maître Albert, dans le 5e arrondissement, à deux pas de Notre-Dame et de la place Maubert, un atelier, un abattoir de chats. On abattait les chats. Ça faisait de la viande pour les habitants du quartier qui n'avaient pas de quoi se payer autre chose. Ça faisait des petits bonnets de laine, ça faisait des petites chaussettes, ça faisait des petits gants, des petites mitaines pour l'hiver, parce que les hivers étaient très rigoureux. Le Paris dégageait moins de chaleur que maintenant, les hivers étaient plus froids. On était encore à la fin du chauffage au charbon. Enfin, c'était, Paris était une ville noire, Paris était une ville sombre, une ville âcre, surtout dans ces quartiers-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas inventé.
En tout cas, c'est une scène énigmatique, troublante et qui ne manquera pas de bouleverser les amoureux des animaux et notamment des chats. Nicolas Destiendorf, vous restez avec nous. Auditrices et auditeurs, vous êtes bien sûr Radion 90.5 en modulation de fréquence dans Lyon, mais vous nous écoutez aussi via Internet aux quatre coins de la Bourgogne et de France sur le www.radion.fr. C'est Wagon Livre, votre émission littéraire qui reçoit ce soir Nicolas Destiendorf pour La gloire des maudits aux éditions Albin Michel, le temps d'une pause musicale et nous revenons tout de suite à vos côtés.
I'll tell you that
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Retour sur les banquettes de Wagon Livre avec Nicolas Destiendorf, notre invité qui évoque son dernier roman paru chez Albin Michel et qui a pour titre « La gloire des maudits ». Nicolas Destiendorf, dans votre roman, la jeune Gabrielle est introduite dans les cercles de celles et ceux qui ont collaboré et elle est présentée à Paris par son parrain Jean Limousin. Elle est présentée à une figure authentique de cantatrice, il s'agit de Germaine Lubin.
Germaine Lubin, qui était la plus grande cantatrice wagnérienne française de toute l'histoire du chant wagnérien. C'est une cantatrice qui effectivement, le problème, c'est qu'elle était la cantatrice préférée d'Hitler, qui, d'un point de vue musical, on peut lui reprocher beaucoup de choses, j'avais plutôt bon goût, mais effectivement, elle avait chanté à Bayreuth, Isolde, devant lui, et il en avait été émerveillé, et il l'avait invité à dîner après, et ce qui est... Alors ça, je conseille ça à vos auditeurs. Il y a une chose qui est extraordinaire, c'est d'aller écouter sa radioscopie sur le site de l'INA. Elle est passée chez Chancel à la fin des années 70, donc c'est une très vieille dame, et elle dit des choses absolument inimaginables, c'est-à-dire qu'elle assume absolument tout. Elle disait qu'Hitler avait de très belles mains, elle parle de sa passion pour le maréchal Pétain, disant qu'on a été épouvantable avec lui. Tout ça là, tout ça sur France Inter dans les années 70. C'est très 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 croustilleux.
Mais est-ce que cette cantatrice a été inquiétée à la Libération, par exemple?
Oui. Alors elle a pas vraiment eu de procès, elle a passé pas mal de temps en prison, en attendant un procès, puis il y a eu un non-lieu. Ça a brisé sa carrière. En plus, la pauvre, son fils est mort peu de temps après, et elle est devenue prof. Elle est devenue professeure de chant.
Alors, Nicolas Destiendorf, il y a quelqu'un qui revit dans cette soirée, qui finalement la soirée qui est à la gloire des maudits. Mmh. Finalement, c'est la soirée des vaincus d'une certaine manière. C'est Lucien Rebattet, dont la carrière littéraire a été brisé en raison de ses engagements durant l'occupation. Alors parlez-nous de Lucien Rebattet, homme que vous connaissez bien.
Homme que je connais bien.
Par la force des choses ou...
Alors Rebattet, il intervenait déjà dans Mes fidélités successives. Là, il intervient dans celui-là. Il est l'exemple même de l'écrivain proscrit, de l'écrivain maudit, de celui qui a joué avec le feu, qui a vendu son âme au diable et qui en plus, hélas, avait un talent redoutable. Lucien Rebattet donc, est l'auteur des Décombres, le best-seller de l'Occupation, qui est un pamphlet qui est 650 pages de haine contre tout, contre Vichy, contre les Juifs, contre les chrétiens, contre les gaullistes bien entendu, et contre l'humanité entière. C'est un texte d'une jubilation épouvantable qui sort des phrases dans l'antisémitisme viscéral et qui a été publié en juillet 42, c'est-à-dire exactement au moment de la rave du Veldiv, il a été condamné dans l'immédiat après-guerre, il a été condamné à mort, il a été gracié, sa peine a été commuée en réclusion à perpétuité, puis il a été libéré en 52. Au même moment, il a sorti un deuxième livre, qui est un très beau roman qui s'appelle Le Deux Étendards chez Gallimard. 1350 pages, un livre énorme, mais qui a fait un flop monumental parce que personne n'a voulu en parler. Et les quelques personnes qui en parlaient le faisaient du bout des doigts ou alors se faisaient surtout taper dessus parce qu'on n'avait pas le droit de dire du bien de ce livre et surtout d'admettre que ce type avait du talent. Et il en a conçu une amertume énorme, mais il est mort en 72 dans son lit après avoir écrit une magnifique histoire de la musique qu'on trouve toujours chez Robert Laffont. Et en fait, moi, j'ai travaillé sur Rebattet. J'ai fait un mémoire de maîtrise sur Rebattet à la Sorbonne, à Paris 4. J'ai commencé une thèse et à cette occasion-là, je suis rentré en contact avec son ayant droit. J'ai classé toutes les archives. Le même ayant droit est mort et m'a légué tout ce patrimoine. Donc, je suis l'ayant droit de Rebattet. Voilà pourquoi je le connais si bien. Et ce qui aussi est un paradoxe intéressant avec le nom que je porte.
Absolument, parce que vous avez un lien de parenté avec ce résistant.
Ah, c'était mon grand-oncle, pionnier de la résistance, figure incontournable et inattaquable de la résistance française, parce que voilà, il est parti à Londres, lui, à l'automne 40, et il a été attrapé dans l'hiver 40-41, et il a été fusillé en août 41, donc vraiment au moment où les communistes ne bougeaient pas le petit doigt. Voilà.
Je m'arrête encore sur Lucien Rebattet. Dans le roman, au cours de cette soirée, notre Gabriel entend Rebattet dire ceci. « Mon plus dur châtiment, infligé au nom du peuple français, ce n'est pas ma condamnation à mort. C'est l'obligation où je suis, dans la vie besogneuse que me fait la France, de vivre parmi les Français. »
Alors ça, c'est une des rares phrases texto dites, écrites par Rebattet dans son journal d'après-guerre inédit que j'ai que je connais, enfin que j'ai beaucoup, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, parce qu'en plus ça m'a permis d'avoir des précisions au jour le jour dans les époques où se passe mon roman. Et il a dit ça en revenant d'un concert, et je trouvais que la phrase est absolument parfaite. Ça montre parfaitement son état d'esprit, et donc c'est du Rebattet in extenso.
Il a souffert en fait tout de même. Au lendemain de cette condamnation, certes, il est gracié, mais lui, ça a été une vie terrible, j'imagine. Se reconstruire après...
On ne l'a pas ménagé, mais il avait amplement mérité sa peine. C'est-à-dire, effectivement, la case des écrivains est peut-être celle qui a le plus morflé, si je puis dire, par rapport à d'autres domaines de l'industrie ou même des arts. Mais voilà, le BTP n'a quasiment pas eu d'épuration parce que les gens qui avaient construit le mur de l'Atlantique, on avait besoin d'eux pour reconstruire les villes détruites. Donc on passait l'éponge parce qu'ils étaient nécessaires. En revanche, le délit d'opinion a vraiment été très 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 durement châtié dans l'après-guerre. Mais Rebattet avait vraiment écrit des horreurs, et il a... Officiellement, il a renié tout ça, mais en fait, non. Quand on lit dans son journal intime, il a gardé les mêmes opinions. Il a repris de le journalisme politique au moment des événements d'Algérie. Il était dans l'antigaullisme viscéral. Comme toute l'extrême droite française, il a appelé à voter Mitterrand en 65, bien sûr. Et il est mort dans son lit en 72. Ce qui est amusant, c'est qu'il vivait au fin fond de la porte de Saint-Cloud à Paris, mais que beaucoup de gens venaient le voir, des petits jeunes. Ils venaient le voir qu'on va visiter un crocodile ou un dinosaure, le vestige d'une époque engloutie.
Alors, défilent dans cette soirée des vaincus, des maudits, de cette manière. Enfin, il y a Paul Morand, il y a la fille de Laval, José Laval, qui a épousé en fait un richissime avocat franco-américain. Alors, on voit Jacques-Benoît Méchain, qui ensuite a eu un rôle très important pour la France dans les relations avec les pays arabes. Mmh. Il y a Arletty aussi, qui, elle, effectivement, a été inquiétée à la libération. Vous recréez comme ça, avec bonheur, ces personnes qui se sont engagées du mauvais côté. Alors après, comment les blâmer ?
Je ne les blâme pas. C'est-à-dire, le principe, moi, ma ligne directrice quand j'écris un roman, surtout ce genre de roman, c'est la maxime de Simenon, comprendre et ne pas juger. Moi, je n'ai aucun... jugement moral, qui suis-je d'abord pour juger ? On a suffisamment de problèmes maintenant parce qu'on a tendance, on a la fâcheuse tendance à juger le passé avec les critères du présent, et ce qui bousille tout, ce qui fait qu'on en vient à déboulonner des statues, à dépâtisser des lieux au nom d'idéologie actuelle, alors que on ne recontextualise jamais ce qui a pu se passer il y a 3, 4 ou 5 siècles, ce qui n'a absolument aucun sens, parce que les gens évoluent, les pensées évoluent. Je ne dis pas que ça évolue vers le mieux, mais ça évolue. Mais mettre en scène tous ces personnages-là, c'est surtout très, très, très savoureux. C'est-à-dire qu'une fois de plus, j'ai beaucoup lu sur la vie de ces individus à l'époque, donc je mets dans leur bouche des choses qu'ils ont réellement dites. Parfois, je tords un peu la réalité pour en rajouter. Ça, c'est mon côté. Voilà, je suis un passionné d'opéra, donc j'aime un peu la surcharge, j'aime le côté un peu rococo d'une scène, le côté un peu grand guignol, mais... C'est tellement amusant de donner vie, de redonner vie, de ressusciter ces gens qui sont souvent oubliés avec une armée de clins d'œil et de petits détails, tout en étant extrêmement précis. Ça demande en fait un énorme travail en amont, ce genre de livre.
Mais vous vous amusez aussi beaucoup. Alors après, par exemple, il y a un moment, Gallimard met une main aux fesses à Sidonie Porel. D'ailleurs, il lui dit « Tant que tu seras chez Plonge, je te traiterai comme une fille à soldat. » Il y a un ministre qui met sa main sur le genou de la jeune Gabrielle lorsqu'il la rencontre. Il y a beaucoup de mains aux fesses. Aujourd'hui, attention. Hein,
aujourd'hui, ce serait « Balance ton Gallimard hein. ».
Je vous propose une nouvelle escale en chanson. Vous écoutez Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h et on retrouve notre invité, écrivain et journaliste au Figaro et à Classica, Nicolas Destiendorf, dans une poignée de minutes pour continuer notre échange autour de son dernier roman intitulé « La gloire des maudits », disponible en librairie aux éditions Albin Michel.
S'aimer assez fort. tant qu'il est de saison.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
C'est le journaliste et écrivain Nicolas Destiendorf qui nous accompagne ce soir sur Radion à l'occasion de la sortie, vous me direz, ça date d'un certain temps maintenant puisque le roman est paru en août dernier. La gloire des maudits, tel est le titre du livre disponible chez Albin Michel. Nicolas Destiendorf, dans votre roman, vous nous faites assister à des rencontres avec Gaston Gallimard, le célèbre éditeur. C'était un homme que vous présentez comme convivial, joyeux, aimant faire la fête avec les auteurs qu'il publiait. Il était vraiment ainsi ?
Il y avait les fameux cocktails de Gallimard qui étaient c'était, je crois, des cérémonies bisannuelles où le tout Paris littéraire et politique et des médias se retrouvait dans le fameux jardin intérieur de l'hôtel de la rue Sébastien-Bottin. Et tout le monde y passait. Et c'était un balai de crabe parce qu'il y avait plein de gens qui se détestaient, mais qui se retrouvaient là parce qu'il fallait en être, y être.
Alors des haines, il y en a. Hein. Alors, il y a Mauriac qui défile. Alors c'est le Dostoïevski des concierges.
C'est comme ça que le surnommait Henri Janson. Et ça, j'ai pris beaucoup d'expressions des polémistes ou des humoristes de l'époque que j'ai mis dans la bouche de mes personnages.
Il y a Paul Guth aussi.
Voilà, qu'on surnommait Lèche-Guth. Parce qu'il était là toujours à cirer les pompes de tout le monde, parce qu'il voulait absolument qu'on parle de lui. Puis ensuite, il a voulu rentrer à l'Académie française. Et ce qui est terrible, c'est que c'est un des auteurs qui a été le plus lu à l'époque. Et je ne sais pas qui aujourd'hui lit encore Paul Guth et même qui se souvient de lui, alors qu'il est mort en fait il y a une quinzaine d'années.
Il y a aussi, bien sûr, l'auteur de Bonjour Tristesse, complètement l'époque.
Oui, ça, il y a juste un moment où on voit elle verse du champagne par terre.
Alors, il y a un personnage qui est très, très sympathique, c'est Roland Dorgelès, qui d'ailleurs va chercher du pommard à la cave. D'ailleurs, je crois que c'est la première cuite que prend Gabriel en buvant du pommard avec Dorgelès et Sidonie Poirel.
C'était un camarade de jeunesse, si je puis dire, de Sidonie. Ils sont ensemble à l'Académie Goncourt. Je crois que le personnage d'ailleurs était assez amusant. C'était une époque où les écrivains avaient des figures plus débonnaires qu'aujourd'hui. C'était une époque où ils buvaient beaucoup. Voilà, c'est un autre temps.
Et puis alors, il y a Cocteau. Alors il y a Cocteau qui dit à Gabrielle, parce que Cocteau bien sûr elle vivait au Palais Royal comme d'ailleurs Colette, parce que la petite Gabrielle elle a Elle a rencontré souvent Colette au Palais Royal. Colette qui est morte, je crois, en août 54.
Oui, alors, Colette est morte juste avant. Et Sidonie n'est pas... Tout le monde pense que Sidonie est vraiment un copier-coller de Colette. C'est pas du tout ça, en fait. Colette est un écrivain que je connais assez mal, que j'ai peu lu. Sidonie est vraiment une invention... Une invention complète. C'est une sorte de romancière ogre. C'est ce que je voulais. Ça n'est pas un personnage déguisé, alors que j'ai vraiment des personnages dont j'ai changé les noms, mais qui sont très très proches de personnages qui ont existé.
Alors, Nicolas d'Estienne-Dorf, vous vous souvenez parfaitement ce que Cocteau dit à la petite Gabrielle à propos des anges.
Ah bon, ça c'est une fameuse formule. En fait, qu'il avait dit, je crois, à un dîner, un fameux dîner chez Georges. Je sais pas chez qui c'était, chez Marie-Laure de Noël, chez Florence Goul ou je ne sais quoi. Où quelqu'un avait dit un ange passe et il avait rajouté qu'on l'encule. Ça c'est fameux. Et donc j'ai un peu déformé la phrase et comme ça je l'ai inclus dans un dialogue entre Gabriel et Cocteau.
Alors dans votre univers fantastique, il y a un chapitre intitulé Le milliardaire. Je n'en dis pas plus, mais il y a un passage magnifique où on est non pas dans les égouts de Paris, mais on est dans, comment dire, une galerie qui a été rachetée par un mystérieux personnage et qui s'y cache. Et ça, c'est formidable aussi. J'en dis pas plus. Hein.
Alors là, pour le coup, là, c'est vraiment... J'ai écrit des romans de science-fiction, des romans d'anticipation, et j'aime les situations un peu limites et un petit toujours aux bornes du fantastique. Et j'aimais l'idée d'un milliardaire qui aurait les moyens de racheter des voies désaffectées du métro et de racheter des voitures, des wagons, un train entier du métro pour y installer une sorte d'hôtel particulier souterrain avec une suite où chaque voiture serait une pièce, un salon, une piscine et voilà, qui vivrait là en totale autarcie avec juste un majordome. Et l'un de mes personnages, qui est une sorte de, pour le coup, vraiment lui de Fantomas, de Deus Ex Machina, qui est un personnage dont on ne sait pas s'il est vivant ou s'il est mort, et qui serait en fait, qui est le fondateur d'une grande entreprise de cosmétiques que j'ai baptisée Luxe, mais qui est assez transparente, pour les lecteurs. Et en fait, et cet homme, surveillerait, enfin aurait eu un grand rôle avant guerre, pendant la guerre, et en fait aurait servi de lessiveux, si je puis dire, pour beaucoup de collaborateurs en les intégrant dans son entreprise.
La morale en littérature est une faute de goût. C'est un des personnages qui dit cela. Alors, est-ce qu'on peut faire de la littérature avec une bonne morale ?
La littérature et la morale, c'est pas la même chose. Je veux dire même la littérature et la politique. Pour moi, la politique, c'est un poison pour la littérature. Les écrivains ne devraient pas se mêler de politique. Ça date leur œuvre. Ça l'intègre au temps, ça fait des livres qu'on ne peut pas relire 20 ans plus tard. Et c'est un métier. L'écriture est un métier, la politique est un métier. Et la plupart des écrivains qui se sont trop plongés dans la politique s'y sont noyés. Et on a vu ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Tous ceux qui ont versé de ce côté-là. De même que quand on lit les œuvres plus engagées, plus politiques de grands écrivains comme Aragon, c'est à peu près illisible aujourd'hui. Ce qui est encore beau à lire, c'est sa période surréaliste ou ce sont les grands romans de la fin, mais les textes les plus engagés, ils sont déjà virelés par le temps.
Pour terminer, il y a aussi l'éditeur Bernard Grasset a été inquiété également à la Libération. En même temps que Jacques Chardonne, me semble-t-il.
Grasset a été beaucoup plus inquiété que Gallimard, qui a été beaucoup plus malin, qui a toujours ménagé la chèvre et le chou. Grasset, celui qui était le plus inquiété, qui a même été assassiné, c'était de Noël. Mais qui, lui, quoique belge, aurait eu énormément de problèmes s'il avait été attrapé. Mais il a été très mystérieusement canardé sur l'esplanade des Invalides. Et beaucoup de gens pensent que c'était un assassinat parce qu'il savait tellement de choses sur tellement de gens qu'il valait mieux le faire taire.
En tout cas, on retrouve... il faut enquêter aux côtés de Gabriel en se plongeant donc dans La gloire des maudits, votre roman Nicolas d'Estienne-Dorf, disponible en librairie aux éditions Albin Michel. Merci Nicolas d'avoir
Merci
été avec
vous.
Nous ce soir. Ce wagon-livre touche à sa fin. C'était aujourd'hui le 327e numéro de votre émission littéraire sur Radion, émission d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur le site d'archives www.yannickpetit.fr. Je vous remercie d'avoir été avec nous et je vous espère également fidèle au rendez-vous de mercredi prochain, 31 janvier 2018, toujours à 21h sur Radion. Au cours de ce nouveau numéro de Wagon Livre, nous vous proposerons un entretien avec Dominique Bonnat pour une vie de gala, une biographie illustrée et riche d'archives inédites que nous présente donc l'académicienne. Dominique Bonnat a effectivement été lauréate du prix Interallié puis du Renaudot et elle se penche sur Gala. Gala, vous savez, c'est la mystérieuse et inséparable épouse de Paul Éluard, puis de Salvador Dali, une femme solitaire, fermée sur un monde intérieur dont elle garde farouchement le secret. En tout cas, Gala a fasciné et a joué de ses multiples sortilèges. Et en elle, ces deux grands artistes du XXe siècle, Paul Éluard et Dali, ont puisé une énergie vitale puissante. Elle a sans doute été une part de leur génie. Ce sera l'occasion de revenir donc sur cette femme Gala à travers la biographie que fait paraître Dominique Bonnat de l'Académie française aux éditions Flammarion. Merci à toutes et à tous de nous avoir accompagnés ce soir sur Radion. Très belle fin de soirée à vous toutes et tous. Encore merci, au revoir et à la semaine prochaine.